Ça y est, tu enregistres là?
Bonjour, c'est l'heure du documentaire et le moment d'une enquête sur nos rituels funéraires. Alors que Jeanne Robet était en résidence au 104, établissement artistique de la ville de Paris, elle a eu l'idée d'un projet baptisé Tombeau ouvert. Le libellé était le suivant. Au 104, la réalisatrice Jeanne Robet a proposé à des volontaires d'imaginer leurs propres funérailles. Si parler de la mort s'avère souvent délicat, se représenter son enterrement constitue un fantasme universel. Après avoir recueilli les envies de chacun, Jeanne Robet a collecté les sons, bruits, ambiances et mélodies qui composent chaque tombeau sonore. L'habillage sert de terreau pour l'indicible, le contrepoint, l'interprétation, se jouer de sa propre mort et imaginer la trace audible qu'on laissera aux proches et au monde. La documentariste rajoutait pour France Culture, dans le respect des sensibilités et des cultures, je souhaite, sur ce sujet tabou, faire émerger des paroles vivantes et gracieuses, se jouant de la mort, en hommage à la diversité et à l'unité de la nature humaine. Quatre personnes ont donc imaginé leurs funérailles. Donner leurs instructions, rester à notre documentariste le soin de confronter ses volontés aux us et coutumes tels que les détient un directeur de pompe funèbre. Se glisseront aussi des sons enregistrés au cimetière de Pantin. Et vous, comment imaginez-vous ce dernier voyage terrestre ?
Ni fleurs, ni couronne, un documentaire de Jeanne Robet et Nathalie Salle.
Il y aura une atmosphère assez belle, lente, attention, une espèce de lugubre qui sort de l'œuvre gercée et tous.
Il est parti vers la
fin. Ah bon?
C'est un climat extrêmement
bizarre.
Et il est parti vers la sérénité, il est parti vers la paix.
Si ça c'est vrai, ça sera chouette.
J'aimerais bien que ça soit rapide. Ça, je trouverais ça plutôt sympathique. Rapide, donc voilà, comme les lapins, un petit coup sur le côté, puis pof. Éric Proust, né le 14 septembre 1952, et mon décès le plus tard possible. Vraiment le plus tard possible. Je suis pas pressé. 22 mars 2052. Pas mal, 100 ans pile.
Florence Iris, mon nom de famille c'est Bouloc. Je suis né le 17-07-1987. Et je suis morte donc le 28 décembre 2042, à l'âge de 55 ans.
Oui, c'est un suicide, évidemment, parce que c'est précis. Hein. C'est précis, c'est une date arrêtée. Hein. Elena De Angelis, et je suis née le 21 novembre 1964, et je décéderai donc le 21 novembre 2034, pour l'exactitude. Ce qui fait quand même une belle tranche de vie. Hein. Ça nous fait, si on compte, 70 années.
Je voudrais apporter une précision. Je ne suis pas sûr d'être mortel. Je suis peut-être immortel. Et un jour, je tomberai et mes dernières paroles seront « Zut, je me suis trompé ». Pierre, je suis né en 1935 et je décéderai en 2019. Rectification. 65, 65, 30, 2029. 2029, 94 ans.
Alors là, c'est simple, les ai tout vus, une cacophonie de produits. Hein. Ce sera une euphorie totale, hein. Euphorie narcotique. Hein. Voilà. Alors évidemment, tout ça, c'est précis et c'est organisé. Et je trouve ça plutôt esthétique comme programme. Une nuit d'errance absolument extraordinaire. Et évidemment, à 70 ans quand même, même si je vais tout faire pour me maintenir à peu près correctement, enfin du mieux que je pourrais jusque-là, ça se soldera avec une attaque cardiaque bien méritée.
Cher tous, mon cher vous, je vous convie aujourd'hui, 29 décembre 2042, à un grand banquet avec pour excuse mes funérailles. Pour cela, retrouvons-nous. Je serai là quand même. Retrouvons-nous à minuit sur la plage de Boucan-Canotte à l'île de la Réunion.
Il est parti.
Les festivités dureront 24 heures.
Ah, vraiment ça, ouais, il est parti.
De nombreuses surprises vous y attendent.
Voilà, il est parti, donc si ça, voilà, si vous avez envie, ça sera tel jour, mais il est parti. Et puis, ouais, faut pas s'embarrasser. Enfin, ça me semble, à vouloir de la simplicité, à vouloir une certaine spontanéité, autant l'être aussi dans le faire part.
Nous avons la douleur de vous faire part du décès de Pierre de Terre, décédé dans sa 94e année. Il sera enterré tel jour, à tel endroit. Il se peut qu'on mette également, n'envoyez pas de fleurs, mais un don à telle association.
J'enverrai un email avec un petit flyer en pièce jointe. Ce sera un flyer, plus exactement, voilà, un flyer qu'on envoie par email. Donc, voilà, ce sera très simple et très sommaire. Alors, Elena De Angelis a quitté le monde des vivants. Elle est en mutation et nous attendons de ses nouvelles pour nous dire où elle échouera. Dans l'attente, venez nous rejoindre nombreux à l'immense cérémonie qui aura lieu au Père Lachaise le 31 novembre 2034 pour célébrer sa grande mutation. Venez dans vos plus beaux atours et doté d'une belle disposition mentale. Vous savez bien que notre exploratrice préférée n'aurait pas souffert de vous voir tout triste et tout rabougri.
J'ai mon copain Steph, j'aimerais bien qu'il soit là. J'aimerais bien sûr ma compagne si elle est là aussi. J'ai peur que mes frères ne soient plus là, puisqu'on a une grande différence d'âge. Enfin, si je suis centenaire déjà... je peux vraiment me retrouver un peu seul quand même. Hein. De nouvelles amies, bien sûr, des nouvelles rencontres, des gens avec qui j'ai œuvré. On a construit des choses ensemble. Pendant longtemps, j'allais beaucoup dans un bistrot, j'étais très ami avec un patron de bistrot. Ça m'aurait fait plaisir qu'il vienne. Maintenant, il était à la retraite, mais lui, je dirais pas non. J'ai bu de bons canons chez lui, on mangeait bien. Parce que j'ai fait plusieurs fois des anniversaires chez lui. Moi, j'aimerais bien mon amie Sophie, ça me ferait plaisir. Le fils qu'il vient d'avoir avec Brice, par exemple. Mon copain Patrick. Beaucoup, beaucoup de copains.
J'ai 55 ans, j'ai bien réussi dans la vie en tant que comédienne. Enfin, pas forcément financièrement, mais bon, je veux dire, je ne vais pas mourir avec mon argent, donc... Le peu que j'ai sera pour oui, qui s'éclate en mon honneur. C'est bien ça. Donc voilà, donc je prends un avion. J'ai tout prévu, ils n'ont plus qu'à monter dedans. À bord de l'avion, les attendent même des paires de savates de doigts, donc de tongs, quoi, hein, tout simplement. Pour chacun, pour qu'ils, dès qu'ils sont dans l'avion, ils déconnectent et ils connectent à autre chose. Voilà. C'est tout simplement une navette avion. Hein. Voilà. Laetitia Germain, Anne-Sophie Coiffé, Clémence de la Tour du Pin, Clémence de la Tour du Pin, Zélie Berger, toute la famille Winnim, Australie. Thomas Germain aussi. Espagne, à Roliane, Tito. Et puis Vicky Frogier, et plein d'autres gens. Enfin, il fera le tour, en fait, il faudra bien aller chercher chaque personne, on ne va pas les laisser comme ça. Ils sont déjà tristes, en plus. J'espère, enfin j'imagine, j'espère pas. Je sais pas.
C'est-à-dire qu'il y a ma famille, elle est assez maigre, hein. Et puis les amis, c'est encore pire. Enfin, c'est du même acabit. Et puis il y a quelques admirateurs, quelques personnes qui m'ont suivi toujours, ceux qui ont été sensibles à mon charme ou pour d'autres raisons qui leur est propre. Voilà. Ça fait si j'évalue comme ça à l'avance, ça peut donner quoi? Un cortège assez maigre, mais quand même un peu puissant. Et plein d'amour pour moi, voilà.
Il y aura certainement des copains norvégiens, puisqu'ils sont plus jeunes que moi. Hein. Ils ont au moins 10 ans de moins que moi. Mais je pense qu'il y aura essentiellement ma famille, qui est extrêmement réduite, mon frère qui n'a que 2 ans de moins que moi, en espérant qu'il soit encore là à cette époque-là, ma belle-sœur, mon épouse à qui je souhaite de me survivre, encore qu'elle trouve qu'on se dégrade bien vite. Mes enfants, bien sûr. Mon fils aura 65 ans, oui. Oui, si je compte bien, 65 et 29, ça devrait bien faire 74. Ma fille aura 59 ans. Voilà.
Mesdames, Messieurs, vous êtes ici réunis autour de Françoise pour l'accompagner et accompagner sa famille dans cette dernière étape. Par sa vie, par les moments qu'elle a pu partager avec chacune et chacun d'entre vous, elle a marqué une part plus ou moins importante de votre existence. Tout comme chacune et chacun d'entre vous ici rassemblés avait marqué une part plus ou moins importante de la sienne. Ce sont ces moments de partage, ces souvenirs, que nous allons ensemble revivre à travers aussi les fleurs, les objets qui ont été apportés par sa famille, les prises de parole, la musique qui a été choisie.
Pour qui sont les obsèques? Est-ce qu'elles sont pour celui qui se projette dans sa propre mort? Ou est-ce qu'elles sont pour ceux qui restent, ceux qui ont de la peine, ceux qui viennent de se séparer de quelqu'un qu'ils aimaient, et ceux qui vont avoir besoin ensuite, ceux qui vont avoir besoin d'apprivoiser l'absence, et puis ceux qui ont besoin d'un lieu pour se recueillir? C'est pas pour rien qu'on a des traditions, qu'on a des cimetières, qu'on a des rites autour du corps. C'est parce que on a un besoin qui est anthropologique, hein, qui vient du fond des âges, d'apprivoiser cette absence, de prendre du temps, et puis d'accomplir un certain nombre de gestes qui montrent qu'on n'est pas tout seul dans ce cas-là. Hein, on fait les mêmes gestes qu'ont fait les autres, que vont faire d'autres après, de telle façon à s'inscrire dans la grande histoire de l'humanité, quoi, hein, arriver à donner du sens à cette perte. Il y a des choses qui sont, il y a des choses particulières parfois, hein, mais ça tient aux religions des gens. Mais quelles que soient les origines des gens, en tout cas, il y a une constante, c'est que au moment des obsèques, quand les gens viennent de perdre un proche, ils ont pas tellement envie d'inventer, ils ont pas tellement envie de choses farfelues. Ils ont besoin de se rattacher à des pratiques qui font sens et à des pratiques qui les rassurent.
Je dirais pas non à un cercueil comme on voit dans les westerns. Le beau sapin simple. Je suis pas sûr qu'il y ait des poignées même. Faut vraiment pas dépenser d'argent, surtout si c'est pour qu'il soit brûlé après. Un habillage, moi je vois pourquoi on mettrait un capitonnage, parce que de toute façon, une fois que c'est fait. Une mise en bière, je dirais pas non, parce que j'ai le souvenir qu'au décès de mon grand-père, il avait du mal à rentrer dans le cercueil. Il avait donc enflé un tout petit peu, et au moment de mettre le corps, bah, ça a un peu craqué. Ça m'a fait rire. Voilà, donc cercueil en bois simple. Comme il fera beau, ben, j'aimerais bien qu'il y ait la lumière du jour. Je ne suis pas certain que dans les morgues ou dans les endroits prévus à cet effet, ça soit qu'il y ait la lumière du jour. Moi, j'aimerais bien.
Un cercueil. C'est un peu oppressant, un cercueil, quand même. Une petite boîte, là. Non, finalement... Le mieux, c'est que je redevienne tranquillement poussière, que je me fonde avec l'élément dans lequel on me pose, quoi. Donc, sans boîte, pour me séparer, quoi.
Oh, c'est un cercueil classique. Tout ce qu'il y a de plus simple. Ce n'est pas là-dessus que j'ai mis l'accent. Je suis vêtue en cuir, avec mes éternels talons de 14 cm minimum. Mais je n'ai pas de postiche ou de perruque ou de... J'ai mes cheveux naturels, puisqu'ils viendront. Je veux un sacrifice avant l'enterrement, et on coupera certaines mèches de mes cheveux. Donc mes cheveux ne seront pas noués. Mes cheveux seront simplement coiffés et longs.
J'ai un gilet rouge à boutons dorés que j'aimerais bien revêtir. Cela dit, bah, c'est dommage de ne pas le garder parmi les vivants. Brûlez avec moi un pinceau, tout simplement. Un vieux pinceau usé dont on ne peut plus se servir.
Oh là là, il y a tellement de choses que j'aimerais porter. Oh là là... J'adore le noir dans la vie, mais le truc, c'est que là, je veux pas porter du noir vu que c'est trop facile, quoi. Alors, je serais morte plus jeune, j'aurais dit un beau rose fuchsia, mais beau, quoi, vraiment comme une fleur, quoi, comme une orchidée, quoi, un rose orchidée. Mais bon, comme j'ai quand même 55 ans, je veux dire, faut quand même... Enfin, non pas qu'on ne puisse pas porter du rose orchidée à 55 ans, loin de là, mais... Oui, d'ailleurs.
Comment je serais habillée? J'aimerais bien une chemise blanche, parce que je trouve que c'est très joli. Chemise blanche, un pantalon de tous les jours, des chaussures que j'aime bien, parce que j'aime vraiment bien les pompes. J'aime bien les chaussures. Être à l'aise, surtout. Pourquoi être à l'aise, en fait, ça, c'est un peu idiot de dire ça. Mais si, tant qu'à faire, autant que pour le dernier moment, être à l'aise dans un pantalon et des fringues que t'aimes bien.
Je vais maintenant inviter chacune et chacun d'entre vous, s'il le souhaite, à venir saluer une dernière fois celle qui nous réunit. Ce geste est un geste personnel. Chacun fera selon ses convictions philosophiques, religieuses et religieuses. Ce geste est un lien d'affection et de solidarité. Vous pourrez tout simplement poser votre main sur le cercueil. Libre dans cette démarche. Je vous demanderai de suivre le mouvement, en commençant par le fond de cette salle, et puis vous pourrez ensuite regagner votre place.
Imaginez des rituels, c'est en manie l'oxymore là. Un rituel, par définition, c'est quelque chose qui est prégnant. Hein, c'est quelque chose qui fait appel à des traditions, qui fait appel à des réflexes sociaux. Hein. Et alors, d'abord, les rituels que l'on pratique actuellement, comme ici au crématorium du Père Lachaise, ne sont pas forcément des rituels religieux. Dans 66% des cas, ici, les gens n'auront eu d'autres obsèques que des obsèques civiles qui sont animées par nos maîtres de cérémonie. Et alors donc, on travaille, hein, on a travaillé sur cet accompagnement. C'est pas parce que c'est un rituel civil non religieux qu'on ne peut pas donner du sens. Et on a besoin à la fois du rituel, une structure du rituel, et puis de la personnalisation. Si on n'a que du rituel et pas de personnalisation, c'est ce qui peut arriver, ou pas de sens, c'est ce qui peut arriver quand il y a des obsèques religieuses avec des gens qui ne sont pas croyants, hein, et puis le curé qui ne connaît pas la famille, qui ne connaît pas la personne, à ce moment-là, ça ne fonctionne pas, parce qu'on n'a pas l'incarnation du rituel. Inversement, si on n'a que des choses qu'on invente, si on n'a que de la personnalisation, à ce moment-là, on va faire venir l'émotion, mais on ne va pas donner du sens.
Et vous sortez par là, à gauche, le rond-point, à la basson, derrière lui, Chopin, Pierre Desproges, Michel Petrucciani.
Je ne délègue pas sur ce point. Je vais tout organiser à l'avance, tout inscrire en bonne et due forme chez notaire et qui on voudra, et je vais me renseigner, et bien évidemment, je laisserai un compte garni pour ne gêner personne, et pour pourvoir à tous les frais. C'est un enterrement, et ça a lieu au Père Lachaise, où j'ai déjà acquis ma résidence secondaire. Voilà, elle se trouve dans la 16e division, et c'est un endroit très charmant du Père Lachaise, donc c'est une petite chapelle superbe, où je l'ai refaite à neuf déjà, l'année dernière, alors ça m'a ruiné, hein. Mais bon, c'était pour la bonne cause. La porte est un peu étroite, j'aurais préféré acquérir celle de gauche, qui est une jolie chapelle plus gothique, mais on ne me l'a pas vendue, je ne sais pas, c'est un... Le conservateur du Père Lachaise n'a pas voulu. J'ai beaucoup insisté, sans succès. Donc j'ai celle-ci, elle me plaît. Et c'est là que j'irai. Donc j'ai indiqué la fin de matinée ou la fin de journée. Et j'ai noté que j'aurais une préférence pour la fin de journée. Le mauve du crépuscule me convenant parfaitement. Alors là-bas, là, c'est un peu Blair Witch. Hein, non mais franchement, ce sont des tombes qui sont ouvertes. J'ai déjà mis un pied à l'intérieur, tout, même un poignard une fois. J'ai tout exploré, tout ce qu'il y avait autour. Bon, c'est une manière un peu de sonder là où on va vivre. Hein, voilà. Et puis en sortant, c'est assez gai parce qu'il y a toutes sortes de... Il y a toujours du monde parce qu'il y a Jim Morrison qui n'est pas loin. Je trouvais que c'était sympa. Je trouve que c'était assez gai. Alors, il y a toujours des touristes ou des punks. Il y a des gens qui plantent des seringues. Alors, ça, c'est bien, c'est gai.
Le lieu idéal, ce serait au bord d'un fjord en Norvège. Ce serait le lieu idéal. Mais il y a une petite contradiction, c'est que je souhaiterais être enterré, ça j'en ai déjà parlé à ma famille, dans un petit village en Champagne. Ce petit village où je passe presque les trois quarts de mon temps. Il y a là un petit cimetière avec une très belle église, un clocher pointu comme une aiguille. Et au bout de 40 ans de vie, je n'arrive pas à me lasser de paysages que je vois tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et sans doute, je continuerai à avoir ce plaisir de regarder ces paysages, du moins mon fantôme ou mon esprit, comme on veut, quand il se promènera au-dessus de petits cimetières. Ma femme voudrait être enterrée dans son village natal, qui est à 700 km d'ici, et pas du tout dans la même direction que le petit village. Il est sans doute probable qu'elle passe par-dessus, non pas mes volontés, mais mes souhaits, et qu'elle me fasse enterrer là-bas, et j'y serai bien aussi. Alors il y aurait une autre solution. C'est qu'on me mette sur une barque au milieu du Rhin, et que je descende le Rhin, et qu'au passage des côtés de Bingen, la Lorelei me dit « Je t'ai toujours aimé ». Et qu'ensuite qu'on foute le feu à tout ça, comme les anciens vikings.
À la fin des 24 heures de festivités sur la plage, on le laissera partir sur la mer. Enfin, sur l'océan Indien, en fait. Finalement, peu importe, vu que je suis plus dans le corps, donc ils peuvent en faire ce qui leur fait plaisir, mais me mettre dans l'océan, c'est pas mal, ça donnera à manger aux poissons. J'aurais dû normalement dire que je fais don de mes organes, mais je suis trop immature pour arriver à vraiment penser à ça, oui, dans l'absolu, oui. Je fais don de mes organes. Peut-être que quelqu'un sous va le jeter à la mer dans un élan de allez, ciao, bye. Mais bon, c'est mon corps, quoi, ce sera pas l'essentiel. Mais je trouve ça pas mal que de symboliser en fait le fait de retourner de là où on vient. Et donc que ma mère me jette à la mer et voilà, non, dans l'océan. Et voilà. Donc ma mère. Et puis en plus, je pense qu'elle en aurait besoin. Encore plus que moi, quoi.
Ce seront sans doute mes enfants qui vont s'occuper de mon inhumation. Et là, il y a une contradiction. C'est que d'une part, je voudrais être incinéré, mais que d'autre part, la mise en terre, comme j'ai l'habitude de le voir malheureusement de plus en plus souvent, constitue une cérémonie qui est gommée par l'incinération. Incinération, pourquoi ? Eh bien, parce que je veux prendre le moins de place possible. Autre chose que j'aimerais qu'il y ait une véritable messe d'enterrement. Je ne me fais aucune illusion, ça n'aura pas lieu. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de prêtres dans la région.
Le cercueil sera porté par six hommes. Hein, six hommes. Mais ce cercueil sera déposé sur un palanquin. Et il sera porté par des hommes à pied. Des hommes habillés en noir, gantés avec plumet noir sur la tête. Vêtements de grande cérémonie, une sorte de plume sur la tête. Et pas de corbillard, je ne sais pas quoi, là. De carriole, de tout ce qu'on voudra, de voiture, pas de voiture. Il y aura un petit cortège, oui, un petit cortège assez maigre, non, il ne sera pas énorme, mais il sera lent et lourd. Et contenu. Ah oui, il y aura une atmosphère assez belle, lente, une espèce de tension rythmée, sourde et glaciale, parce que on est quand même le 21 novembre 2034. Donc on gèle. Il fait très froid. Il y a une espèce de lugubre qui sort des lèvres gercées de tous. C'est un climat extrêmement bizarre. Onirique, une sorte de film au ralenti.
Mon Dieu, je pense à une chanson, un chant, c'est le chant des esprits au-dessus des eaux de Schubert. Mais qui va chanter ça ? Oh, il y aura bien l'appareil portatif qui va diffuser cette musique. J'aimerais qu'on récite peut-être soit le Lindenbaum. Am Brunnen vor dem Tore, da steht ein Lindenbaum. Ich schnitt in seiner Rinde so manches Liebeswort, etc., etc., etc. Autre chose, peut-être aussi, c'est la mélodie qui a été jouée à l'orgue lors de mon mariage, Jesus meine Freude, qui elle, alors, ça, oui, ça j'aimerais aussi. Encore une autre chanson, dans un registre tout à fait différent. Une chanson que nous chantons à chaque petite cérémonie que nous faisons, c'est le temps des cerises. Et puis oui, un air de jazz, de New Orleans. Mais bon. Qui va venir jouer du New Orleans à mon enterrement ?
Quelque chose qu'on entend souvent, en tout cas, ça peut être effectivement le canon de Pachelbel. Ça, c'est clair. Pachelbel.
La famille s'impatiente.
On ajoute à la liste, hein, tout simplement. Voilà. Allez. Cœur à bouche fermée de Giacomo Puccini, Madame Butterfly.
Le maître de cérémonie, il est là pour aider la famille à trouver son cheminement, il est là aussi pour conduire une cérémonie avec un début et une fin. Il y a vraiment un rôle qui n'est pas évidemment envisagé par les personnes au moment où elles préparent leurs obsèques, mais qui, dans les faits, est souvent nécessaire. Et je crois qu'il est là aussi pour mettre en évidence qu'il y a une parole publique qui peut être donnée pour apporter ce regard extérieur et quelque part objectiver.
On peut avoir du sens, on peut avoir la spiritualité sans avoir de Dieu. Si on regarde la structure de ces obsèques civiles, elles s'apparentent, ou alors les rituels maçonniques par exemple, et ça s'apparente très fortement à des... Enfin, en tout cas, c'est basé sur les mêmes fondamentaux que les obsèques religieuses. Il y a un certain nombre d'étapes qu'on va suivre et qui vont permettre de donner du sens.
Je préférais pas qu'il y ait une cérémonie, enfin, en tout cas... qui viennent, oui, volontiers, pour un dernier salut, et puis que ça se passe assez rapidement, puisque ça peut être très, très gai. Que quelqu'un d'étranger à mon entourage fasse un tralala, ça ne me satisfait pas. Je préférerais que ça soit un de mes grands copains, ou une grande amie. Ça me ferait plaisir. Ou ma compagne, ça, bien sûr. Ça peut être plus compliqué, peut-être, pour la compagne. Si c'est une de mes amies ou un de mes amis, c'est... Il y a un petit peu de recul. J'aime beaucoup les poignées de main. Le problème, c'est que la poignée de main, ce n'est que beau que lorsque les mains sont vivantes. Donc là, serrer une poignée de main froide, c'est pas très sympa. Parce que j'aime bien la paume contre la paume. Puis vite, bon, bah, ça, c'est faut régler le cérémonial de la chose. Et puis partir récupérer l'urne. Puis on se trouve un endroit sympa où aller se faire... dispersé. Paris un peu, moi j'aime bien. Je suis pas parisien, mais j'aimerais bien que ça soit dans des quartiers que j'aime bien. Voilà, et puis en y allant, ben, soit ils dispersent tranquillement, discrètement, parce que je sais pas si on peut disperser. Est-ce qu'on peut disperser partout? Je suis pas certain. Hein, je pense pas. Il faut le faire discrètement. Alors, ce qui serait sympa, si, admettons que ça se passe au Père-Lachaise. Je dirais pas non de remonter l'avenue Gambetta. Ou alors passer à travers le Père-Lachaise, plus joli. Arriver place Gambetta, qui n'est pas bien joli, mais par contre, prendre la rue des Pyrénées, où il y a beaucoup de commerçants, où je fais mes courses. Donc là, il peut y avoir une petite dispersion. S'arrêter un peu devant le poissonnier, parce que j'achète beaucoup d'huîtres, j'aime beaucoup les huîtres, donc je dirais pas non, faire un petit truc par là. Là. Remonter, jusqu'à arriver devant la boulangerie. Parce qu'elle est bonne. Passer la boulangerie. On continue. Alors, on peut prendre la rue Orfila pour récupérer une jolie petite rue qui passe devant le square Sorbier et la place Sorbier. Donc, j'aime bien le quartier général, qui est un bistrot. J'aime bien l'été parce que il a une grande terrasse. Là, il pose, il croûte. Pouf, pouf. Il faut qu'il soit sous. Il faut qu'il y ait de l'ivresse. Il faut qu'il y ait de l'ivresse parce que... Parce que ça délie un peu les langues, ça va parler fort. Ouais, il faut que ça se ressouille un peu là-dedans, ouais, c'est évident. Bon, alors ça finit un peu éméché, on va dire vers 16h, 17h, là, à un moment, bon, on va faire quelque chose, qu'est-ce qu'on fait de ce qui reste? Donc là, ils peuvent prendre la rue... j'ai un trou de mémoire qui est juste en face, qui va permettre de récupérer le bout de la rue des Couronnes. arrivé chez moi, puisque j'habite rue des Couronnes, en bas des jardins de Belleville, à un petit coup au parc, sympa, petit coup au parc, ouais, puisque j'ai passé de bons après-midi. Et puis il faut vraiment que la boîte s'avide avant de monter à la maison, quoi. S'ils veulent s'en faire un dernier à la maison, au moins que la boîte soit vide. Voilà.
Ce sera une énorme fête. Ce serait des funérailles comme sont les mariages, quoi. Toutes les femmes de ma famille ont cuisiné pour l'occasion. Et elles ont fait 7 plats. Ça, c'est comme au jour de l'an chinois, en fait. Un curry saumon, magret de canard au miel et à la vanille. C'est bon, ça. Un rougail saucisse. Et un curry poulet. Je peux même que je mette un plat aux oreilles aussi. Un aligot pour mon père. Et il manque 2 plats, non? Oh là là, qu'est-ce qu'on va manger? Il y aura de toute façon en entrée des acras, des samoussas, des nems, des bouchons, à volonté. Enfin, ça va être un truc de dingue. Ah oui, j'ai oublié quand même l'essentiel, il y aura du riz, mais ça, j'ai pas précisé parce que c'est la base. Une énorme marmite de riz, quoi. Et les boissons, il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'alcool. Des rhums arrangés, des petits ponches, des ponches coco. Il y aura aussi, parce que je veux que les gens aient tout ce qu'ils pourraient désirer, il y aura aussi tout type de drogue. Chacun en fera ce qu'il veut, quoi. Donc évidemment, la partie famille ne se drogue pas. Mais bon, pour les amis qui se droguent, je veux qu'il y ait tout à volonté, en fait. Surtout, autant en termes de nourriture que d'alcool, que de drogue. Il y aura du LSD, il y aura du MDMA, il y aura de la cocaïne, oui. Bon, du Zamal, parce que c'est quand même la drogue locale. Mais bon, si pour qu'ils s'endorment, c'est pas le but, quoi. J'ai besoin que tout le monde soit là, donc chacun avec ses besoins assouvis, et que du coup, ben, il soit posé, quoi. Voilà.
Moi, ce que je veux, c'est une cérémonie dans le cimetière, devant la chapelle, avant l'enterrement. Voilà. Mais l'église et tout ça, non, non, non. Je ne souhaite pas. J'ai été élevée dans la religion catholique. Je suis chrétienne par culture, par tradition. Forcément. Donc tout ça, ça fait partie d'un folklore qui m'habite, bien évidemment, que je ne renie absolument pas. Mais ça n'implique pas que je sois croyante absolument et que je nécessite ou que je désire pour X raison une cérémonie. Non, il faudrait être sincèrement croyante pour ça, au sens... non, je ne souhaite pas.
Il y aura une atmosphère assez...
Lorsque les hommes qui portent donc mon cercueil sur le palanquin arriveront au cimetière... Et donc, ils poseront le cercueil au sol. Ensuite, ils dresseront un petit autel à côté, avec des photos, des objets personnels, des fétiches, des victuailles, des bougies, de l'encens. Et ensuite, une personne vient avec une cagoule, hein, le sacrificateur. Il ouvre la possibilité officielle d'ouvrir le cercueil. Pendant ce temps-là, toutes les personnes, les quelques personnes qui sont là, feront des sons de gorge, hein, qui accompagneront la consécration, hein, qui feront des... Chacun avec sa voix, des... qui accompagneront le rituel. Et il se penchera vers moi, coupera les mèches et me percera la jugulaire. Il recueillera le sang dans un petit récipient. Et ensuite, les têtes des personnes se pencheront et il pourra verser le sang sur le front ou les têtes, qui se pencheront spontanément. À partir de ce moment-là, le prêtre présent, à côté du sacrificateur, poussera le cri. Ah ! Ah ! Et là, on peut dire qu'on peut refermer le cercueil et ensuite le descendre. Donc, il faudra le faire pivoter un peu parce que La porte de ma chapelle est très étroite, donc on ne peut pas passer le cercueil droit, il faut le faire pivoter. On me l'a expliqué, hein, ça je me suis déjà renseignée. Donc il faut le faire pivoter un petit peu et le faire descendre. Donc là, il descendra et là, c'est la cérémonie est terminée. C'est le début de la grande mutation. Voilà, l'acte est accompli. C'est le fondamental de mes désirs funéraires. C'est ça qui doit avoir lieu.
Alors, ils vont boire du champagne et du Gewürztraminer. Au-delà de ma disparition, je veux quand même continuer à faire travailler donc les vignerons que je côtoie là-bas et surtout les vignerons alsaciens pour lesquels j'ai une grande admiration que je célèbre aussi souvent que possible en levant mon verre de ce beau vin doré. Si ça se passe dans le petit village, dans le village à côté, il y a un restaurant qui est tout à fait bien pour recevoir donc une cérémonie pareille. Ce que j'aime beaucoup, c'est une sorte de pâté alsacien qui est fait, mais bon, ils ne sauront pas le faire là-bas, qui est fait de viande marinée, trois sortes de viande marinée. On fait mariner pendant 24 heures. Ensuite, on met ça dans une sorte de coupe de pâte feuilletée. On referme avec un couvercle en pâte feuilletée. On fait des dessins. On badigeonne avec du jaune d'œuf. On fait des petits dessins avec une lame de couteau. On enfourne ça et je peux vous dire que c'est une merveille. Voilà ce que j'aimerais bien qu'ils mangent, entre autres.
Une fois qu'on a descendu le cercueil, là, les gens partent. Ils quittent le cimetière. Ils vont donc là où j'ai vécu. Dans mon antre, dans le 18e arrondissement, parce qu'ils y sont cordialement invités, ils le sauront, je l'aurai stipulé à l'avance. Donc ils pourront se rendre là, faire à leur aise, donc évoluer chez moi, dans le jardin ésotérique à l'extérieur ou à l'intérieur, écouter mes musiques, dire des textes. Moi, je les vois discuter, alors ils prennent un animal, ça je le vois bien, ils le grillent dehors dans le jardin ésotérique, ils l'ingèrent, ils rentrent, ils sortent, ils mettent mes musiques, ils discutent beaucoup, mais tout ceci ne me concerne plus. Moi, ce qui me concerne, c'est jusqu'à la fin du rituel. Mais je suis ravie qu'ils prennent possession de mes lieux, je trouve que tout ce que j'ai... Tout ce qui m'a toujours appartenu de mon vivant appartient à tous ceux que j'ai aimés pour toujours. Et j'espère au contraire qu'ils en feront tout ce qu'ils voudront. Ils pourront revêtir mes vêtements. Ils pourront prendre mes maquillages, mes herbes, boire mes infusions aux fruits que je fais venir d'Angleterre. Donc ils diront la même chose que moi. Ils utiliseront les mêmes expressions. Par exemple, boire une eau chaude, je dis toujours ça, hein, boire une eau chaude, toute ma vie j'ai dit ça. Tu ne veux pas une eau chaude, hein? Ah non? T'es sûr? Je vais en faire une, je peux en faire deux. Tout ça en hommage de moi, voilà.
Le cercueil va maintenant quitter cette salle. Il sera déposé sur le catafalque qui est situé en haut des marches. Il disparaîtra à vos regards, mais en disparaissant à vos regards, resteront tout ce qui a été évoqué au cours de cette cérémonie, les souvenirs, les moments partagés, tous ces moments de tendresse, d'échange, ne peuvent que rester ici, bien présents dans vos cœurs. Dans un geste de dernier hommage, je vais vous inviter à vous lever pour accompagner une dernière fois de votre regard, avec votre cœur, celle qui vous a réunis ici aujourd'hui.
Si je me projette dans ma propre mort, c'est très bien de vouloir la dispersion. Enfin, c'est très compréhensible qu'on veuille la dispersion, parce que si on me brûle, que tout disparaît, et puis qu'il n'y a même plus de traces, c'est que c'était pas si important que ça. Hein? Donc la mort a un peu moins d'importance. Et on ne se confronte pas à sa vraie mort. On ne se confronte pas à l'encombrant cadavre. La crémation s'est développée extrêmement rapidement en France. Il y a à peine une génération, 1980, il y avait moins de 1% des gens qui pratiquaient la crémation. On est arrivé cette année à plus de 30%. Pour autant, notre fonds culturel, c'est absolument pas la crémation, c'est l'enterrement catholique hein, qu'on a dans les livres qu'on a lus, les films qu'on a vus, les traditions familiales, c'est ça. Donc effectivement, il y a eu très rapide construction de crématoriums qui ont répondu à un besoin quantitatif, mais sans que ce besoin rituel soit vraiment pris en compte. Donc vous avez les gens qui ne sont pas croyants, et avec un phénomène de la crémation qui s'est développé extrêmement rapidement, hein, et dans le même temps, la société n'a pas agi. C'est-à-dire qu'on a, la plupart du temps, créé des crématoriums à la va-vite, à la périphérie des villes, sans qu'on ait compris qu'il devait se passer des choses importantes là-dedans. Et il y a une vraie inégalité actuellement entre les gens qui pratiquent l'inhumation et puis qui passent à l'église, qui sont dans un bâtiment qui a été payé par la collectivité, enfin, qui est au centre de la cité, hein, qui est un bâtiment chargé d'histoire, de symboles, et puis les gens qui se retrouvent effectivement parfois en province dans des bâtiments qui sont des sortes de salles polyvalentes, même pas améliorées.
Alors, bien sûr, j'ai quelques objets, j'ai beaucoup de disques par exemple, ça ferait plaisir qu'ils se partagent ma discothèque. Donc du coup, à chaque fois qu'ils mettront le disque, bah, il y a une pensée ou s'il y a une fringue, ou il y a quelques objets que j'aime bien, que j'aurais donné, ou qui seront pris de leur propre chef. Voilà, ça fera l'élément qui déclenchera. Ça, c'est plutôt sympathique. Il faudra distribuer les plantes. Quelques-unes qui seront encore là, il faudra les donner. Moi, j'ai pas d'animaux, donc c'est réglé. Des pompes, pour ceux qui font la même pointure que moi. Ah si, mes ustensiles de cuisine. Ah, j'aimerais bien que là, si ça se partage un peu, j'ai des beaux couteaux japonais... J'ai remis de mes voyages et tout ça. Ouais, là, ouais, il y a de beaux trucs, là. Il faut qu'ils se partagent un peu, ouais. Et les livres, mais il y a de beaux livres. Voilà, ils se partagent tout, ils se débrouillent, quoi. Ils viennent le lendemain faire ça. Ça fait un retour comme pour les mariages. On vient le lendemain et on bouffe les restes. Bonne idée. Voilà, donc, ils peuvent, s'il fait beau, on peut se manger sur le balcon, sympa. Finir un peu la cave. Je pense qu'il restera un peu de trucs. Ouais, et puis du coup, ouais, ça ferait un petit truc... Ouais, un petit, ouais, pas mal, il est du retour, pas mal. On peut presque le mettre dans le déroulé, là. Bien. Le scénario est bon.
J'aimerais bien qu'ils repartent chacun avec un... Avec quoi ils pourraient repartir? Idéalement, de toute façon, là, je suis dans le fantasme complet, donc autant y aller vraiment. Ils se feraient donc tatouer, pas mégalo, quoi. Juste un point, en fait... Là où j'ai un grain de beauté, juste un point en fait en tatouage, entre le pouce et l'index, je sais jamais si c'est l'index, de la main gauche. Donc personne ne le saurait sinon eux, mais voilà. Et ça, ce serait ma tombe en fait. Oh, ce serait génial ça. Ça serait bien. Ouais. Une toute petite, juste un point. Mais bon, je crois que de toute façon, les gens qu'on rencontre, quand ils partent, ça nous fait un... Au moins un point quelque part, quoi. Donc, ils peuvent le faire comme ça, c'est fait. Qu'ils le fassent en vrai, quoi. Je crois qu'ils reviendront à leur vie, mais différents. Enfin, j'espère. Parce qu'ils sont super, mais peut-être pas différents, mais révélés. Je crois qu'ils ont arrêté d'essayer de comprendre, mais qu'ils ont ressenti un truc. Et que, du coup... Il y en a peut-être qui retourneront pas travailler, quoi. Voilà. Mais oui, j'espère qu'ils sortiront de là comme ils sortiront d'une pièce de théâtre réussie, quoi. Avec des questions, mais pas mentales, mais juste des questions qui sont là parce qu'elles sont réveillées, quoi. Et ils sont là, ils font « Waouh !» C'était quoi, ça? On va où, là? On fait quoi, maintenant? C'est quoi, la vie? Voilà. J'aimerais qu'ils partent comme ça.
Je voudrais que cet enterrement... Bien sûr, hein, je pense que mes enfants auront du chagrin. Mais je voudrais que ce soit un enterrement, non pas triste, mais... Et là, je rejoins donc ma foi catholique, où souvent, lorsqu'il s'agit d'enterrement, il est parti vers la lumière. Voyez, ou bien il est parti vers la sérénité, il est parti vers la paix. Si ça c'est vrai, ce sera chouette.
J'ai toujours tout accompli dans le rituel dans ma vie, donc ce serait logique pour moi de terminer comme ça. Ce serait la chose la plus logique, la plus juste qui soit, la plus en accord avec ce que j'ai été de mon vivant. À chaque chose importante ou à chaque choix, à chaque étape de ma vie, j'ai concocté moi-même toujours des rituels. Toujours. Donc, c'est un de plus. C'est comme ça qu'il faut le voir. Le final, il est plus beau, plus solennel. Mais c'est tout. C'est simplement la conclusion.
Alors, en épitaphe, ou en tout cas, oui, une chose qui serait dite... Ouais, c'est pas mal. Je spontanément, comme ça, ce qui me semblerait être résumé un peu une préoccupation de tout le temps, je trouve, en tout cas depuis que je suis debout et un peu réfléchi, c'est... il a bien fait son travail en complicité avec les autres. Je dirais pas non.
Alors j'y ai pensé hein, beaucoup à l'épitaphe. J'y ai pensé, je l'ai imaginé. Oh, j'en ai vu défiler des épitaphes, mais des centaines. Hein. Toutes, hein, sauf la mienne. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais pas. Je pense que ça ne me convient pas trop bien parce que d'écrire, d'inscrire quelque chose de l'ordre de « si j'y, ici repose », je ne sais pas. Moi, je suis une personne qui fonctionne... dans les actes, pas trop dans les écrits finalement. Je préférerais savoir qu'un jour sur ma tombe se commettent des actes.
Sur les docks, ni fleurs ni couronne. Merci à Elena De Angelis, Florence Iris Bouloc, Éric Proust, Pierre De Terre, François Michaud Nérard et Jean-Paul Rocle. Prise de son Claude Nior, mixage Bernard Lagnel, documentation musicale Christian Charles, attaché d'émission Laure-Hélène Plonchet et Christine Gage, productrice coordinatrice Irène Omelianenko. Un documentaire de Jeanne Robé, réalisation Nathalie Salle.
C'est la fin de notre série collection particulière avec ce Ni fleurs ni couronne, embaumé pour l'éternité sur le site de l'heure du documentaire. La semaine prochaine, nous irons sur les plages bretonnes, pour le sable, sur le plateau de Millevaches, à Firminy-Vert, dans le métro et à Paris.